20h-21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, le prélèvement de l'impôt à la source aura-t-il lieu? Le Premier ministre Édouard Philippe s'apprête donc à rendre la décision du gouvernement, nous la connaîtrons. Et nous la commenterons d'un instant à l'autre. Quant au remaniement, eh bien, deux nouveaux ministres seulement entrent donc au gouvernement. Tout ça pour ça. Voilà donc les deux grands thèmes des informés de France Info ce soir. Nous verrons quelles seront les conséquences politiques pour le chef de l'État qui avait lui-même émis des doutes sur la faisabilité du dispositif concernant ce prélèvement de l'impôt à la source. Nous reviendrons également sur les nominations de François de Rugy à l'écologie et de Roxana Maranassiné-Anou au sport en lieu et place de Nicolas Hulot. Parti en larmes et Laura Flessel, tous deux, vous le savez, démissionnaires. Emmanuel Macron, dont la cote de popularité s'effondre, la présidence jupitérienne a-t-elle désormais changé de visage? On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue Marion Mourgue.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique de notre partenaire Le Figaro. Avec nous également ce soir, Thomas Clé. Bonsoir, bonsoir Thomas Clé, professeur à l'école de droit de la Sorbonne. Avec nous, bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général adjoint de l'IFOP, vous aurez à cœur de commenter ce sondage qui donne un Emmanuel Macron en difficulté. Et invité également, bonsoir et bienvenue, Agathe Cagé.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques et vous présidez l'agence de conseil Compass Label. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la TNT sur le canal 27. Alors il est près de 18h au ministère de l'écologie, après une semaine de turbulence, on va dire ça comme ça, Nicolas Hulot tire sa révérence. Voici son discours d'adieu en larmes et les premiers mots en même temps de son successeur François de Rugy.
J'ai le cœur qui est triste. J'ai l'esprit libre. J'ai la conscience tranquille. Mais ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation. Elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation. Le sens de ma décision, ça n'est pas de baisser les bras. C'est de lever les yeux.
Je crois depuis toujours que l'urgence écologique est un appel à l'urgence d'agir. Je suis ici pour agir. Je suis ici pour agir pour l'écologie avec méthode, détermination et persévérance dans le temps.
Marion Mourgue, comment est-ce que vous interprétez ce ton de tristesse de Nicolas Hulot et ses larmes, hein ?
Voilà, déjà on voit qu'on a deux discours assez différents sur la forme. Il y en a un qui est plus lyrique et l'autre qui est plus roboratif. Ça va avec le personnage de Nicolas Hulot, sans que le terme personnage soit péjoratif, mais voilà, il le dit lui-même, il est hors des codes de la politique, et là, c'est une manière de s'exprimer qui est très différente d'un ministre. Ensuite, on entend qu'il dit « j'ai la conscience tranquille », donc il ne retire aucune des critiques qu'il a faites il y a une semaine, et il n'y a manifestement aucun regret de partir.
Il avait envie de partir, Agathe Cagé, selon vous, oui ?
Non, il aurait eu envie
non,
de...
Vous.
Il aurait eu envie de rester, mais les conditions d'exercice de son ministère ne lui permettaient pas de rester pour tout en répondant à ce qui était ses propres exigences. C'est vrai que quand Nicolas Hulot appelle un nouveau rêve d'utopie, c'est très différent de la politique écologique qui pourrait être menée dans les mois à venir. Donc je pense que c'est un homme qui aurait préféré continuer un combat, mais dans des conditions...
Constat d'échec quand même.
C'est un constat d'échec. Ouais. Mais ouais. Il aurait préféré continuer son combat, mais dans des conditions différentes. Comme il n'a pas réussi à imposer les conditions dans lesquelles il voulait mener le combat écologique, il a préféré partir.
Frédéric Dabi, je vous vois frémir. Ouais. Il y a deux styles différents d'ailleurs, hein, on a constaté avec cette passation-là.
Déjà le style différent, il est par rapport au Nicolas Hulot de France Inter, où quand on relit ce qu'il a dit, il a quand même fait montre d'un aveu d'impuissance à changer les choses. Là, ce qu'il nous dit, c'est « je quitte la scène politique, mais je continue le combat, je ne suis pas sur une logique de résignation ». L'aveu d'impuissance de la semaine dernière, à cet aveu, répond une idée qu'il va continuer le combat. Le discours est complètement antithétique s'agissant de François de Rugy, qui là est très macronien, sarkozien, l'action, agir, agir. Ah oui, et là, il apparaît plus film, comme hein, oui. le professionnel de la politique qu'il est.
Alors, justement, le ministère du possible.
Oui, Marion Moore. Oui, justement, Thomas Clé, à ce sujet, on a cette déclaration qu'évoquait à l'instant Frédéric Dabi de Nicolas Hulot qui dit ce n'est pas une forme de résignation, mais le signal d'une nouvelle mobilisation. Et en même temps, vous avez François de Rugy qui déclare les défenseurs du statu quo ne voient pas mon arrivée à ce ministère d'un bon œil. Vous pensez vraiment qu'il y a de quoi s'inquiéter?
Je ne sais pas si pour les défenseurs de l'écologie, l'arrivée de François de Rugy est plus inquiétante que le départ de Nicolas Hulot, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une évolution très nette dans le discours de Nicolas Hulot entre ce qui a été dit la semaine dernière à France Inter et ce qui est dit aujourd'hui. C'est que la semaine dernière, il nous a dit qu'il arrêtait la politique, et là, c'est plus du tout le cas. Alors, on a une personnalité exceptionnelle, une personnalité atypique. D'ailleurs, une personnalité qui est profondément sincère, mais qui aussi fait montre d'un certain nombre de fragilités, c'est incontestable. Est-ce qu'il peut être le leader politique de l'écologie dans les semaines, les mois qui viennent, et notamment avec cette échéance et cette perspective que constituent les élections européennes? C'est possible. Est-ce qu'il va appeler à voter aux européennes pour les candidats d'En Marche, ou la liste En Marche? Ça va être intéressant à observer, parce que ouais. les écologistes l'attendent, et n'attendent que lui, au fond.
Marion Moore, le combat écologique, c'est toujours finalement en dehors du gouvernement, c'est pour les associations, les ONG.
Ça donne un peu cette impression, d'où le discours de François de Rugy en disant non, ici on peut faire des choses et ce qu'on appelle le ministère de l'impossible, j'aurais à cœur de montrer l'inverse. Mais on a l'impression qu'il faut des figures libres comme Daniel Cohn-Bendit ou Nicolas Hulot pour incarner ça.
Jean-Louis Borloo précise, Frédéric Dabi, oui.
Et parce que justement, c'est ce qu'ils déplorent tous, le poids des lobbies, et on l'a vu, les chasseurs qui ont tout de suite soutenu la nomination de François de Rugy.
Agathe Cagé, c'est le ministère de l'impossible, ce ministère de l'écologie et du développement durable.
C'est le ministère de l'extrêmement difficile. Ça sera
de l'extrêmement
sans doute
difficile, c'est pas mal ça.
Ouais. Parce qu'il faut jamais se dire que personne ne pourra faire quelque chose à ce poste. Ouais. On a vu quand même que la France a su conduire une COP21 qui est une COP21 ambitieuse. Après, pour Nicolas Hulot, c'était clairement le ministère de l'impossible. C'est vrai que l'évolution de son discours, on a Nicolas Hulot qui disait « je ne vais plus rien faire pour ne pas nuire au gouvernement ». Bon, bah, quelques jours après, il s'est dit « je vais peut-être continuer à être utile pour l'écologie. C'est pas seulement mon départ qui aura une utilité, mais sans doute l'action, la marche pour l'écologie ou autre chose que je vais conduire dans les mois à venir. »
Alors, nous allons revenir sur la personnalité du nouveau ministre de l'écologie. À 20h10 sur France Info, ce sera après le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Validation, report ou annulation, voilà les trois scénarios pour le prélèvement à la source. Après plusieurs jours d'incertitude, l'exécutif a tranché. Une réunion à ce sujet a été organisée à l'Élysée ce matin. Une discussion intense selon l'entourage d'Emmanuel Macron. La décision est annoncée en ce moment même par le Premier ministre. Après Nicolas Hulot, Laura Flessel a elle aussi cédé sa place. La ministre des Sports démissionnaire a reçu Roxana Maracineanu, l'ancienne nageuse championne du monde en 98. Salut, celle qui restera la ministre qui a ramené les Jeux d'été en France. Le ministre de l'Agriculture l'assure, la marine française est prête à intervenir en cas de nouveaux accrochages entre pêcheurs normands et britanniques. Stéphane Travert veut éviter que la situation ne s'envenime dans les zones de pêche de la coquille Saint-Jacques, en cause un différend sur les calendriers de pêche. L'état d'urgence décrété en Louisiane, les habitants attendent le passage de la tempête Gordon. Elle se dirige vers les côtes et devrait se transformer en ouragan. L'inquiétude grandit notamment à la Nouvelle-Orléans, ville dévastée par l'ouragan Katrina en 2005. Et puis le début des quarts de finale de l'US Open de tennis. Anastasia Sevastova se qualifie pour les demi-finales. La Lettonne s'impose face à la lauréate sortante, l'américaine Sloane Stephens. À suivre chez les hommes, Juan Martín Del Potro face à l'américain John Isner.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et voilà ce que disait De Rugy, François, c'est le même, je vous rassure, le 17 janvier 2017, en pleine campagne présidentielle. Nous sommes à 5 jours du premier tour de la primaire socialiste où il totalisera 3,82% des suffrages. François De Rugy nous parle du candidat Macron, un document diffusé par nos confrères de Brut.
Je dis quand même qu'il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un autre problème, ou au moins une question sans réponse, c'est Emmanuel Macron, président. quel est le gouvernement, quelle est la majorité parlementaire, quelle est la coalition avec qui il travaille. Personne ne le sait. Et là, ce ne sont pas les ralliements, sans vouloir être désagréable à l'égard de telle ou telle personne, qui vont construire l'ossature d'un gouvernement
peut-être
ou d'une majorité parlementaire.
Alors, je vous promets, Thomas Clay notamment, je rappelle que vous avez présidé à l'époque la haute autorité de la primaire à gauche. Je vous promets, tous les quatre, que nous allons commenter ce que nous avons entendu là, mais place à l'info. La réforme du prélèvement à la source, eh bien, entrera bien en vigueur le 1er janvier 2019. C'est ce que vient d'annoncer le Premier ministre Édouard Philippe au journal de 20h de TF1. Place donc à cette information de premier ordre. Allez, première réaction avec vous, Frédéric Dabi. Ils vont faire la réforme. Ça vous surprend ?
Je n'avais pas d'information, malgré le titre de votre émission, Jean-François Akili, là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que je pense que maintenir cette réforme, c'est s'enlever un risque d'opinion majeur. Le retrait de cette réforme, c'était pour moi la perte de peut-être ce qui reste comme dernier atout dans l'opinion pour Emmanuel Macron, à savoir la capacité réformatrice. On a vu une sorte de banalisation de son image avec l'affaire Benalla, une banalisation parce qu'il n'a pas de résultats comme ses prédécesseurs. Il lui restait cette caution réformatrice. Ça va mettre de nouveau de la pression. Il y en avait déjà beaucoup sur la question du pouvoir d'achat. Les Français ont le sentiment que tout augmente. Les Français ont le sentiment que les réformes ne changent rien à la pouvoir d'achat. Et il y aura, bien sûr, cette dimension psychologique de voir son salaire net amputé du prélèvement à la source. Pour autant, il y avait un risque majeur. Et puis surtout, il y avait sans doute, avec le retrait de cette réforme, le couac le plus important de ces 15 dernières années. D'un côté, tout le monde reçoit, les personnes imposables, leur feuille d'impôt. De l'autre, une campagne de communication intense avec ces atermoiements qui auraient pu avoir un coût dans l'opinion extrêmement élevé.
Alors, nous poursuivons ce tour de table, Agathe Cagé, avec vous. Je précise quand même que sur ce plateau, trois d'entre nous pariaient sur un maintien et les deux autres, eh bien, sur un abandon. Je ne préciserai par
c'était
élégance.
Selon les sexes.
La vache. Agathe Cagé, est-ce qu'il fait le bon choix, Emmanuel Macron?
Oui, il fait le bon choix. Moi, j'ai perdu mon pari par rapport à cette réforme, parce que c'est une décision à laquelle je ne m'attendais pas. Il fait le bon choix, mais en même temps, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, depuis 15 jours, on entretient cette incertitude sur le fait que la réforme va être ou non conduite. On fait sortir, fuiter des notes de Bercy sur les difficultés. On a des prises de parole du ministre des Comptes publics, du Premier ministre, du président de la République lui-même à Laval, parlant du risque pour son capital politique, en nous disant « je ne sais pas si je vais le faire, si je peux le faire, je vais tout vérifier ». Heureusement qu'un ministre, qu'un Premier ministre, qu'un président de la République font toutes les vérifications pour la mise en place d'une réforme techniquement complète. Pourquoi entretenir les Français dans une incertitude forte sur quelque chose qui va les concerner directement au 1er janvier, sur quelque chose qui est extrêmement anxiogène, difficile en compréhension immédiate ?
Vous ne comprenez pas, vous ne l'admettez pas.
Je ne comprends pas ce choix politique.
Oui, Marion Bourg, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes un grand reporter du Figaro, au service politique, est-ce que selon vous il y aurait peut-être eu une sorte d'écran de fumée qui aurait été lancé peut-être à un moment opportun, ou selon vous il y a eu une vraie hésitation de la part de l'exécutif?
Il y a eu une vraie hésitation, c'est-à-dire que si vous reprenez l'interview d'Emmanuel Macron justement dans le Figaro en avril 2017, il est encore candidat, il exprime déjà des doutes sur le pouvoir d'achat, sur l'effet psychologique et puis sur la mise en œuvre. Donc il reste cohérent. Le seul problème, c'est que depuis 15 jours, vous venez de le dire, il y a une sorte de mise en avant de ce qu'on appelait dans l'ancien monde les couacs, et ça crée un climat très anxiogène pour les Français. Alors le fait d'annoncer que la réforme sera faite ce soir n'enlève pas cette angoisse. Et maintenant, les gens ont intégré le fait que même le président et le Premier ministre pouvaient se poser des questions. Alors amener une réforme dans ces conditions-là, c'est d'autant plus compliqué.
Que dites-vous, Thomas Clay? Il prend un risque politique, Emmanuel Macron, parce qu'après tout, ça y est, il prend à son propre compte, du fait de l'avoir manifesté publiquement, cette réforme. Mais si d'aventure il y avait un souci, ce serait pour lui.
En tout cas, on sort d'une séquence catastrophique sur le plan politique pour arriver à un résultat qui est exactement identique à ce qui était au départ de la séquence. Donc c'est un raté politique absolu. Mais à mes yeux, il eût été bien pire d'abandonner cette réforme. Cette réforme, outre qu'elle est voulue par une majorité de Français, si on en croit les sondages, et en présence de Frédéric Dabi, on est obligé de croire les sondages.
C'est une majorité de Français, pas forcément une majorité des contribuables.
Si, 66% de personnes qui sont
assujetties
à l'impôt. Non, l'impôt sur... Mais c'est vrai qu'il y a un socle réfractaire qui n'est pas négligeable. Surtout, je vous interromps un un tout petit instant, c'était très intéressant dans une enquête JDD de dimanche, c'est le souhait est très fortement majoritaire, mais le pronostic, il n'y avait qu'une personne sur cinq qui était sûre que la réforme serait bien mise en place, signe que le doute s'est fortement installé.
Mais cette réforme, elle est quand même indispensable, c'est une réforme de bon sens, les Français la veulent, on la trouve dans tous les pays ou presque, on ne peut plus être dans un décalage d'un an par rapport aux revenus, elle était finalement consensuelle parce que la gauche l'a voulu,
est-ce qu'il n'y a pas une dimension anxiogène, Thomas Clay, dans cette réforme ?
Bien sûr, parce que ça va changer un peu les habitudes. Mais enfin, si on renonce à trois mois de la réforme, lorsqu'on a investi 200 millions, 30 millions pour la communication, pour moi, c'eût été invraisemblable. Et la fin, effectivement, comme il y a souvent dans les actes, dans certains quinquennats, des tournants, la fin de la parole politique courageuse et engagée de l'actuel exécutif.
Alors, Frédéric Dabi, je rebondis sur ce que dit à l'instant Thomas Clay. Souvenez-vous cet extrait à Helsinki, où le président, à l'étranger d'ailleurs, parle de cette réforme à venir et demande à voir. En quelque sorte, il esquisse une sorte de demi-sourire. Je ne sais pas s'il faut le surinterpréter, ce que nous faisons parfois un peu trop souvent, mea culpa. Est-ce que vous pensez sincèrement que Emmanuel Macron, à ce moment, savait que de toute façon, il ferait cette réforme ?
Alors vraiment, je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Elle n'est pas facile, votre question, cher Jean-François Achilly. Ce qui est vrai, c'est que, bon, le président a sans doute en tête les enquêtes d'opinion. Il y a un service d'information du gouvernement qui commande toute une série d'enquêtes. Ce qui était vrai, c'est que cette réforme s'inscrivait dans la cohérence d'Emmanuel Macron. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Cette logique de distinction par rapport à ses prédécesseurs, ne pas faire cette réforme, c'était renvoyer Emmanuel Macron à Jacques Chirac qui abandonne le CPE, François Hollande qui abandonne l'écotaxe face à la mobilisation des bérets rouges, voire Nicolas Sarkozy qui avait renoncé en chemin sur telle ou telle réforme. C'était le risque de la banalisation.
Parce que là, on ne parlait pas de la capacité ou pas à prendre un choix politique courageux. On parlait de la capacité à savoir piloter une administration et à savoir techniquement mettre en place un autre système de prélèvement sur l'impôt qui est mis en place dans tous les autres pays européens. C'est-à-dire que là, on n'était pas de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que je recule ou pas par rapport à un choix politique qui pourrait être impopulaire ? On était sur une capacité à piloter un ministère qu'on sait important, mais avec des fonctionnaires qui disaient, certes, il y a des problèmes et on est en train de les résoudre. Si le président recule parce qu'il a peur de bloc technique, ancien ministre de Bercy, après un report d'un an, alors on est au-delà de l'incapacité à gouverner.
Ça aurait été son Florange de Macron. C'était le tournant du quinquennat.
Alors ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette décision, donc ce soir d'Emmanuel Macron, annoncée par Édouard Philippe, et bien d'aller vers le prélèvement de l'impôt à la source au 1er janvier. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons reprendre le fil de notre récit ce soir avec la suite des commentaires autour du mini-remaniement auquel nous avons assisté. Mais tout d'abord, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Après plusieurs jours d'incertitude, Édouard Philippe confirme que la réforme du prélèvement de l'impôt à la source aura bien lieu. Elle sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2019, comme c'était prévu. C'est ce que vient d'annoncer donc le Premier ministre à propos de cette mesure controversée. Édouard Philippe qui assure qu'elle sera appliquée dans de bonnes conditions. Pas une résignation, le signal d'une nouvelle mobilisation. Voilà comment Nicolas Hulot voit sa démission. Il a reçu tout à l'heure le nouveau ministre de la Transition écologique, l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Le Japon n'avait pas connu un tel typhon depuis 25 ans. Aéroport inondé, véhicule emporté par le vent. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans cette tempête qui balaye l'ouest du pays. Les rafales dépassent les 200 km/h et les autorités appellent plus d'un million d'habitants à rejoindre des refuges. Les bombardements russes ont repris dans la région d'Idlib en Syrie. L'ONU redoute un bain de sang. Le régime de Bachar al-Assad, lui, se dit déterminé à reprendre le contrôle de cette dernière région aux mains de la rébellion. Au moins 9 civils ont été tués dans ces nouvelles frappes. Et puis le Tour cycliste d'Espagne, l'Italien Elia Viviani remporte la 10e étape au terme d'un sprint. La Vuelta toujours dominée au général par le Britannique Simon Yates en avance seulement d'une petite seconde.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Achilly.
Et je me tourne vers l'ex, on peut dire ça comme ça, président de la haute autorité de la primaire à gauche, Thomas Clay. Ce fut une de vos activités dans le monde d'avant. Je reviens vers cette déclaration.
En tout cas, oui. Cette haute autorité n'existe plus puisqu'il n'y a plus de primaire.
Mais il reste des socialistes.
Il reste des socialistes, heureusement. Et ce n'était pas d'ailleurs que les socialistes, et j'imagine que c'est de ça dont vous voulez parler.
Alors Thomas Clay, on a vu cet extrait tout à l'heure de François de Rugy, diffusé par Brut, extrêmement critique à l'endroit d'Emmanuel Macron sur la cause écologiste. Aurait-il changé d'avis? Que s'est-il passé depuis?
Sur son adhésion au macronisme? Ah, ça, il faudrait être dans sonder les reins et les cœurs pour le savoir. Mais ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est qu'il date du 17 janvier 2017. Le premier tour de la primaire socialiste, c'était le 22 janvier, 5 jours plus tard. Donc il était en pleine campagne. Or, moi, je connais François de Rugy, j'ai de l'amitié pour François de Rugy. Mais la colère de l'ancien président de la haute autorité des primaires n'est pas retombée. Je rappelle que François de Rugy s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire, élection, je le rappelle, le 22 janvier, et que, très rapidement après, dans les 3 semaines qui ont suivi cette élection, il a, au contraire, soutenu Emmanuel Macron. C'est un parjure politique. C'est un parjure politique qui m'affecte personnellement, puisque c'est à moi qu'il a remis l'engagement formel, écrit et signé, de soutenir l'engagement de la primaire. Vous, hein. Et en plus, alors que ce soit à moi, ça n'a aucune importance, mais il l'a dit publiquement aussi à la télévision. Bon, cela dit...
Qu'est-ce que cela renseigne sur la personnalité du nouveau ministre de l'écologie quant au combat pour la planète?
En tout cas, pour les combats pour la planète, je ne sais pas. Ce que je peux dire simplement, c'est que, effectivement, François de Rugy est quelqu'un d'engagé en matière d'écologie et d'environnement. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de structuré. Et si j'osais, pour le titiller, je dirais, mais justement, parce qu'il est structuré, parce qu'il raisonne, parce que c'est un bonhomme politique aguerri, comment expliquer qu'il quitte le perchoir, quatrième personnage de l'État, où il est tranquillement installé jusqu'en 2022, où d'ailleurs il fait un certain nombre de réformes qui ne sont pas inintéressantes, pour rejoindre le ministère dont on a rappelé en début de cette émission qu'il s'appelait le ministère de l'impossible, et où le bail en moyenne dure 18 mois, et où on peut à peu près penser qu'il ne pourra rien faire. Pour moi, c'est une décision politique incompréhensible pour quelqu'un d'aussi intelligent que François Brugy.
Marion Moore, vous partagez l'avis de Thomas Clay. On ne peut rien faire, il ne pourra rien faire, François Brugy, après l'épisode Hulot.
Ces derniers mois, il était plutôt proche de Gérard Larcher sur la révision constitutionnelle et donc plutôt assez critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Or, il a compris que cette révision, elle était de plus en plus reportée et donc il y a eu moins de grands textes à porter. Donc ça peut aussi avoir joué un peu.
Oui, mais quand même, président de l'Assemblée nationale, c'est un poste quand même indépendant, un poste de pouvoir, un poste de responsabilité. Il faisait des réformes, il se retrouve dans un ministère, il est à la merci d'une décision d'un Premier ministre, il n'a pas de poids politique réel, personnel. Il va être candidat probablement à une réélection dans sa circonscription de Loire-Atlantique. Il a perdu la main.
Mais justement, ce remaniement en cascade qui touche aussi l'Assemblée nationale montre que les macronistes autour d'Emmanuel Macron, ceux de la première heure, sont extrêmement présents parce qu'ils ont pesé justement pour que ce perchoir se libère et pour que ça se gauchise.
Justement.
Et en plus, il va laisser Thomas le perchoir Clay à celui qui est son rival.
Justement, c'est à ce sujet, je vous propose d'aller réagir autour de la table, d'écouter ce qu'on a dit Eric Woerth, qui préside la commission des finances de l'Assemblée nationale, président Les Républicains. On l'écoute.
Il y a une tentative du gouvernement, on l'a bien vu au travers de la réforme constitutionnelle avortée, d'affaiblir le Parlement et d'affaiblir les députés par rapport au pouvoir exécutif. Je considère que nommer au gouvernement un poste de ministre le président de l'Assemblée nationale, c'est évidemment affaiblir l'Assemblée nationale elle-même.
Rapidement, Agathe Cagé, est-ce que ça répond à l'interrogation de Thomas Clay, ce que dit Eric Woerth, une tentative de fragilisation de l'Assemblée nationale?
Non, du point de vue de François de Rugy, clairement, c'était quand même un personnage politique qui courait depuis au moins 2015 derrière un Marocain ministériel, donc il a son Marocain ministériel, et on l'a vu par le passé, vous avez remontrer d'extrait, à faire preuve d'un certain opportunisme politique. Donc, il continue un parcours
pour vous, c'est l'opportunisme.
Comme cela. Par contre, du point de vue du rapport aux institutions qu'on voit depuis l'élection d'Emmanuel Macron, clairement, il y a une fragilisation dans le système institutionnel français du poids du pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif, une fragilisation qui va être double par l'arrivée, par le départ de François de Rugy qui quitte un poste de première importance pour rejoindre l'exécutif, et sans doute aussi par l'arrivée au perchoir de Richard Ferrand qui fait partie des personnages qui avaient quitté le gouvernement du fait d'une instruction en cours et qui risque encore une mise en examen dans l'affaire des mutuelles. C'est doublement dangereux quand même par rapport à un Parlement dont on sait l'importance dans la démocratie française.
Un mot là-dessus, Frédéric Dabi. Je vous promets, nous poursuivrons dans la deuxième partie là-dessus.
Il y a quelque chose d'inédit. Au tournant des années 2000, Laurent Fabius quitte l'hôtel de la CEP pour devenir ministre des Finances à Bercy. N'oublions pas quelque chose qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que la scène parlementaire n'est pas une scène visible. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Match, on voit qu'un Français sur deux déclare ne pas connaître suffisamment François de Rugy. Ce n'est pas un personnage incontournable pour les Français.
Allez, promis, Frédéric Dabi, dans la deuxième partie de cette émission, vous commenterez votre propre sondage IFOP sur la cote de popularité à la baisse, évidemment, d'Emmanuel Macron. Ce sera après la météo et les infos. À tout de suite.
Fiscalité, immobilier, épargne, retraite, succession. Difficile de s'y retrouver.
Avec l'UFF, gagnez en sérénité. En septembre, ce sont les journées de votre patrimoine. Bénéficiez d'une consultation offerte avec un de nos conseillers. Inscrivez-vous vite sur réveillezvotrepatrimoine.fr.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Encore contrasté demain entre la Bretagne, le pays nantais, la région parisienne et la frontière belge, ce sera gris le matin avec un peu de brouillard. De la Normandie au Nord-Pas-de-Calais, on ajoutera de la pluie. Partout ailleurs, ce sera une belle matinée ensoleillée, un peu de grisaille possible quand même sur les côtes du Languedoc-Roussillon et de la Corse. Il fera 10 à 17 degrés jusqu'à 19 pour le sud-est. L'après-midi, toujours beaucoup de nuages de la Bretagne au nord de la Seine, mais aussi sur le Grand Est avec un risque d'averse, voire un orage du côté de la Lorraine. Ça tournera à l'orage sur le sud des Alpes, le massif central et au sud de la Garonne. Les températures gagneront quelques degrés et seront bien agréables pour la saison. Prévoyez 19 degrés au Havre, 22 à Lille, 24 degrés à Paris, 27 à Strasbourg et à La Rochelle, 29 à Lyon, Marseille et 32 degrés à Montauban.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30. Toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. Tout ça pour ça, des jours d'altermoiement, d'hésitation au sommet de l'État pour finalement annoncer que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera appliqué comme prévu à partir du 1er janvier 2019. C'est le Premier ministre qui l'a dit ce soir dans le journal de 20h de TF1. Nous avons la garantie que cette réforme sera mise en œuvre dans de bonnes conditions, a notamment déclaré Édouard Philippe, qui a participé ce matin à l'Élysée avec Gérald Darmanin à une ultime réunion de cadrage. François de Rugy à l'écologie, Roxana Maracineanu au sport. Aujourd'hui, deux ministères ont changé d'air. Le président de l'Assemblée nationale va quitter son perchoir. Il a remplacé Nicolas Hulot cet après-midi lors d'une passation de pouvoir où l'ancien ministre s'est montré très ému. « J'ai le cœur qui est triste, l'esprit libre et la conscience tranquille », a-t-il déclaré devant ses collaborateurs. François de Rugy a lui promis d'agir dans le temps pour réconcilier l'économie et l'écologie. Un peu plus tard dans la journée, c'était au tour de Laura Flessel de céder la place. Elle démissionne, dit-elle, pour des raisons personnelles. L'escrimeuse est remplacée par la nageuse Roxana Maracineanu.
Il n'y a pas plus belle manière de rendre à la France ce qu'elle m'a donné depuis mon arrivée en 1984 à l'âge de 9 ans de Roumanie. Mes parents avaient alors l'âge que j'ai aujourd'hui. Ils ne parlaient pas un mot de français et ne connaissaient personne ici. Merci à eux d'avoir permis à mon frère et moi de vivre nos vies de manière libre. Je suis heureuse d'embrasser les missions qui me sont confiées, la modernisation de la gouvernance du sport, la responsabilisation des associations, la réussite de l'organisation des grands événements qui vont avoir lieu sur notre territoire et bien sûr nos Jeux Olympiques. Nous allons travailler tous ensemble, ici au ministère et partout en France, avec tous ceux qui font la richesse du sport français. Le mouvement sportif, les collectivités territoriales, les entreprises et bien sûr les autres ministères que je compte bien associer à ces projets de manière active et engagée pour continuer à œuvrer pour la réussite des Jeux de 2024 et pour que le sport devienne le cœur du projet éducatif des enfants et des jeunes ces prochaines années.
La nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracine, à nous des nominations et bien sûr des réactions. Jean-Luc Mélenchon parle de François de Rugy comme d'un ministre des apparences écologiques. Le directeur général de Greenpeace France doute, lui, de sa capacité à peser dans ce gouvernement en faveur de l'environnement. C'est un pitoyable jeu de chaises musicales pour Olivier Faure. Enfin, du côté des Républicains, Éric Woerth regrette que le président de l'Assemblée nationale quitte un poste éminent pour rentrer au gouvernement. Il y voit une manière de placer l'Assemblée et le Parlement au second plan. C'est le typhon le plus puissant depuis 25 ans au Japon. Depuis ce matin, des bourrasques de vent de plus de 200 km/h ont été enregistrées. 6 personnes au moins tuées, plusieurs centaines blessées. Les autorités japonaises ont ordonné l'évacuation de plus d'un million d'habitants sur l'archipel. Plusieurs centaines de vols et de trains ont été annulés. Plus d'un million de foyers sont privés d'électricité. Il est 20h33 sur France Info. Le retour, bien sûr, des informés avec Jean-François Aquili.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, avec Agathe Cagé, docteur en sciences politiques et présidente de l'agence de conseil Compass Label, avec Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, et avec Thomas Clé, professeur à l'école de droit à la Sorbonne. Et il nous a rejoint. Bonsoir à vous, Yannick Falt, et bienvenue.
Bonsoir Jean-François.
Vous êtes reporter au service politique de France Info et ce soir, c'est vous qui vous y êtes collé. Vous avez suivi le Premier ministre Édouard Philippe sur TF1. Qu'a-t-il dit? Quel est l'essentiel de son propos ce soir à propos, évidemment, du prélèvement de l'impôt à la source?
Au terme de ce suspense insoutenable, hein, n'est-ce pas? Le Premier ministre a donc annoncé que le prélèvement à la source serait bien mis en œuvre le 1er janvier 2019 comme prévu, alors que 3 autres scénarios étaient envisagés. Un nouveau report d'un an, comme ça avait déjà été le cas. Une mensualisation obligatoire pour tous les contribuables ou une annulation, un abandon pur et simple de la réforme. La réforme aura bien lieu le 1er janvier comme prévu, avec quelques aménagements dont on ne connaît pas précisément les contours. Édouard Philippe a annoncé notamment qu'un dispositif particulier serait mis en place pour les dons aux associations.
Alors vous, on le connaît, hein, c'est un bon acteur Édouard Philippe, un bon performeur comme on dit en français. Vous l'avez senti à l'aise dans cette annonce ou est-ce qu'il vous a semblé un petit peu hésiter? Et d'ailleurs, au passage, quelle est la stratégie au final du gouvernement dans tout ça?
Plutôt à l'aise, Édouard Philippe, comme toujours, souriant, détendu. Mais sur la stratégie, effectivement, c'est la question ce soir. Tout ça pour ça. Pourquoi le gouvernement a mis en place cette stratégie de mise sous tension? Car il faut se rappeler que c'est Édouard Philippe lui-même, il y a 10 jours, qui avait alerté sur les difficultés de cette réforme dans le journal du dimanche.
C'est vrai.
Disant le dispositif...
C'était en fin d'interview.
Toute fin d'interview, ouais. Le dispositif sera prochainement évalué. Écho qui filtre la semaine dernière dans le Canard enchaîné. Puis Emmanuel Macron lui-même, lors d'une conférence de presse à l'étranger, ce qui est rare pour un chef de l'État français à l'étranger, qui réagit et qui fait part de ses doutes sur l'opportunité de cette réforme. Donc pourquoi cette mise sous tension à la fois de Matignon, du ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin, de toute l'administration fiscale, pour au final dire que la réforme serait bel et bien mise en œuvre? On se pose la question ce soir. Pourquoi angoisser, finalement inquiéter les Français plutôt que de les rassurer?
Alors justement, à ce sujet, merci cher Yannick Falt, restez avec nous. Hein. Agathe Cagé, vous pensez, alors il y a eu cette espèce de doute qui a été émis sur les capacités techniques de l'administration fiscale à faire cette bascule le 1er janvier. Vous pensez que c'est prêt cette affaire là?
Je pense que les choses sont prêtes. C'est une bascule qui est compliquée techniquement à faire. Il y a eu un certain nombre de tests qui ont été faits. Sans doute, il y aura quelques difficultés qui toucheront. Alors, des contribuables, la difficulté, c'est de savoir si ça va toucher 100 personnes, 1000 personnes ou 10 000 personnes. Voire 100 000 personnes, il faut espérer que ça touche un nombre très réduit de personnes, mais on a une administration qui s'est mise en branle depuis longtemps déjà pour conduire cette réforme. On a quand même des systèmes d'information et des fonctionnaires à Bercy qui sont d'une très grande qualité. Donc si la réforme était quasi prête pour janvier 2018, elle devrait être mise en œuvre sans trop de difficultés en janvier 2019. Ce qui est plus compliqué, c'est la capacité quand même des Français à comprendre le nouveau système de prélèvement à la source. On a dit aux Français vous allez avoir un taux qui va vous être proposé. Vous pouvez choisir ce taux ou choisir un autre taux. Vous allez avoir 2018 comme une année blanche, mais si vous avez beaucoup gagné en 2018, finalement, elle sera prise en compte. Ouais. Si vous employez des personnes, la réforme sera
encore
pour vous mise en place
simple,
en 2020.
Hein,
c'est compliqué pour les Français.
Ouais.
C'est compliqué à comprendre. On a créé un climat anxiogène. Donc, je pense qu'il va y avoir de la tension autant dans les foyers français que dans l'administration de Bercy.
Alors, Marion Mourgue, intéressant ce que dit Agathe Cagé. Pour rebondir aussi sur les interrogations soulignées par Yannick Falt, on a voulu créer au plus haut niveau un climat d'anxiété chez les Français. Il y avait une espèce de volontarisme derrière.
C'est
la question qui est posée ce soir.
Manifestement, le Premier ministre et le Président n'avaient pas le même avis. C'est-à-dire que le Président, très rapidement, il a émis des doutes, alors que le Premier ministre était plutôt en soutien de Gérald Darmanin. Et il semble que dans son interview du JDD, il y ait une petite intervention présidentielle pour justement faire passer un message, alors que ce n'était pas l'envie d'Édouard Philippe. Et donc là, on voit plutôt les deux camps, avec d'un côté le Président qui était poussé par les macronistes et les visiteurs du soir à dire... Faut faire attention, c'est anxiogène, le pouvoir d'achat, etc. Et puis de l'autre, Édouard Philippe et Gérald Darmanin qui voulaient plutôt tenir sur la réforme et qui semblent, pour le coup, avoir gagné ce soir.
Frédéric Dabi, c'est très ancien monde, ça, cette espèce de système de visiteurs du soir, d'hésitation, et puis au fond des camps qui s'affrontent. On a vu ça par le passé maintes et maintes fois.
Oui, donc ça participe de cette banalisation de l'incarnation de la fonction par Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est très, très ancien monde. Il en a payé le prix dans le baromètre de Paris Match.
On va y venir, promis.
Qui était la non, mais il n'y a aucun souci. Seulement, c'était pour appuyer
mon propos
sur le teasing, fait que toute une série de l'affaire... de l'affaire Benalla à la démission de Nicolas Hulot. À cette affaire, on voit que l'agenda politique que le président jupitérien, le maître des horloges, maîtrisait, s'impose à lui et tout ça crée du brouillage sur l'indicateur de est-ce qu'il a une vision claire de l'avenir des Français. Il a reculé de 10 points. Les Français perdent le fil et le cap des réformes.
Thomas Clay, pour boucler autour de ce prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, hein, vous pensez qu'il peut y avoir une jauge? On pourrait dire qu'a-t-elle, on évoquait avec Agathe Cagé une sorte de chiffres, hein, 10 000, peut-être plus. Est-ce qu'il y a une jauge à partir de laquelle, au fond, il y a un risque politique pour le gouvernement ?
Moi, je pense que le risque politique pour le gouvernement, c'était, il l'a d'ailleurs dit à de multiples reprises, c'est que les Français recevant leur fiche de paye en janvier 2019 se dire ah bah, c'est quand même beaucoup moins que ce que je gagnais avant. Mais ce risque, quand même, il aurait pu être anticipé. Autant je comprends qu'on puisse discuter et s'interroger sur l'importance d'une réforme comme celle-ci, ça me paraît parfaitement légitime. Même si, encore une fois, je considère qu'il n'y a pas de raison que la France n'arrive pas à faire ce que tous les autres pays arrivent à faire. Autant, ce qui est incompréhensible dans cette affaire, c'est que cette discussion vienne si tard. Elle vienne 3 mois avant l'échéance, alors que les services sont prêts. On a une déclaration du ministère des Finances de 2006, il y a 12 ans. Ils disent qu'ils sont déjà prêts à passer au prélèvement à la source. Et on a, depuis quelques semaines, enfin depuis quelques jours, depuis effectivement l'interview dans le JDD, qu'on avait d'ailleurs soulevé sur ce plateau, en disant, tiens, il y a la dernière question là de l'interview du Premier ministre, qui a l'air d'ouvrir la porte à un
relancement. C'est vous qui avez soulevé
ce point. Merci de le rappeler.
Je sais que vous êtes modeste, Thomas Clay.
J'ai quand même eu le sentiment que ces derniers jours, on s'apprêtait peut-être à renoncer à cette réforme, sous couvert de mettre en cause les aspects techniques de celle-ci. Mais c'était d'ailleurs, les services de Bercy ont réagi en disant c'est inacceptable. Nous sommes prêts, nous sommes contre, mais nous sommes prêts. Et qu'on ne nous dise pas que c'est de notre faute. Voilà, ça aurait été un cache-sexe de l'abandon de cette réforme.
En tout cas, le mystère reste complet. Merci Yannick Falt pour votre éclairage ce soir. Vous nous avez permis de comprendre ce qui s'est produit sur le plateau de TF1 chez nos voisins. Dans un instant, nous évoquons le sondage IFOP. Mais tout d'abord, il est 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
C'est son premier portefeuille ministériel. François de Rugy a pris ses marques à l'hôtel de Roquelaure, le ministère de la Transition écologique. La passation de pouvoir, c'était cet après-midi avec Nicolas Hulot. Parmi les réactions, celle de la Fédération nationale des chasseurs qui salue la nomination d'un pragmatique. Une bonne réforme qui a nécessité des mois de travail d'arrache-pied. Voilà comment le Premier ministre qualifie cette réforme du prélèvement de l'impôt à la source. Elle sera bien mise en œuvre le 1er janvier 2019. C'est ce qu'a confirmé aux 20h de TF1 Édouard Philippe après une semaine d'incertitude. 5 ans après la mort du militant antifasciste Clément Méric, le procès de trois skinheads a commencé aux Assises à Paris aujourd'hui. Ils comparaissent libres sous contrôle judiciaire, 2 des accusés en cours jusqu'à 20 ans de prison. L'Espagne ne livrera pas 400 bombes à guidage laser à l'Arabie Saoudite. Madrid renonce en raison de l'implication des Saoudiens dans la guerre au Yémen. Le gouvernement socialiste annule donc le contrat et les 9 millions d'euros déjà payés seront rendus à Riyad. Et puis 60% des bébés sont nés hors mariage en France l'année dernière. C'est un record dans l'Union européenne. Les naissances hors mariage étaient une exception jusqu'à la fin des années 70, mais elles se banalisent selon l'étude de l'INSEE.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, et comme un bonheur n'arrive jamais seul, après les explications de notre confrère de France Info, Yannick Falt, voici un extrait de l'intervention du Premier ministre Édouard Philippe sur TF1.
Des millions de contribuables, on en fait partie, ont reçu il y a quelques jours ceci. C'est un avis d'imposition pour 2018 dans lequel il est stipulé très précisément que l'impôt sera retenu à la source le 1er janvier prochain. Est-ce que cet avis fait foi? Est-ce que je le déchire? Et est-ce que c'est toujours valable?
Je vous encourage vivement à ne pas le déchirer.
Je ne l'aurai pas déchiré de toute manière.
Bon, c'est tant mieux. Et je vous confirme en effet qu'au 1er janvier de l'année 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Comme nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour faire en sorte que cela soit possible.
Allez, encore un mot là-dessus, je ne m'en lasse pas, mais c'est Thomas Clé, c'est un feuilleton.
C'est pas fluide, en tout cas, la manière dont il nous l'annonce, parce qu'on attend qu'il nous dise oui ou non, en fait. Et même ça, c'est pas clair.
Et puis, il commence à dire, comme prévu, on a l'impression qu'il va vers ça, et il se rattrape en se disant que lui-même alimenterait encore le feuilleton. Là.
Agathe Cagé, sur cette prestation-là, vous la sentez naturelle, ou il y a un petit côté forcé?
Il y a un petit côté forcé, mais c'est la difficulté d'une présidence jupitérienne, en fait. L'impression que donne cette séquence, c'est que tout a été prêt. Tout d'un coup, Emmanuel Macron, 10 jours avant les annonces, découvre le dossier et dit « j'ai telle question ». Et là, tout le monde se met en branle parce que le président jupitérien, qui est le seul à pouvoir prendre la décision, a des interrogations qui met en rouge, en marge d'une note. Et là, vous avez toute une série d'interrogations. Est-ce qu'il va y avoir un quoi? Qu'est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Et le Premier ministre, premier de la classe, qui vient finalement annoncer
que
le professeur est prêt pour la décision. Mais ça donne vraiment cette impression-là. Quand vous avez un seul homme qui a construit un système totalement vertical pour décider, à un moment donné, le dossier arrive sur son bureau, et s'il n'est pas totalement content, vous avez une série d'interrogations qui arrivent, qui fleurissent et qui donnent la séquence qu'on a connue.
Alors justement, Frédéric Dabi, Agathe Cagé évoque cette présidence jupitérienne et il y a le fameux sondage IFOP. Nous y venons pour Paris Match et nos amis de Sud Radio, publié ce matin. Corrigez-moi,
tout à
Frédéric.
Fait diffusé ce matin.
Et je donne un chiffre et je vous passe la main. Hein. 31% des Français déclarent désormais approuver son action. Est-ce que ce résultat est inquiétant pour Emmanuel Macron?
Clairement, oui. Il perd 10 points par rapport au mois de juillet. Alors, il avait déjà perdu 10 points à la rentrée 2017, mais il avait rectifié le tir. Là, on voit que les atouts du macronisme tendent à se fragiliser auprès des Français. Deux chiffres en fait, symboliques. Il est désormais sous le score qu'obtenait François Hollande à la même époque, au moment du ras-le-bol fiscal dont on parlait tout à l'heure. Autre chiffre symbolique, il recule de 25 points chez les cadres supérieurs et les professions libérales. C'est tout simplement les deux catégories au sein desquelles Emmanuel Macron a réalisé la plus forte percée électorale le 23 avril 2017. Et puis l'équation politique du macronisme, cette capacité à faire venir sur son nom des gens venant de la gauche, des gens venant de la droite, s'estompe puisqu'il recule entre 10 et 15 points, aussi bien au PS que chez les Républicains. Il y a clairement un sondage qui reflète l'été et la rentrée horribilis du chef de l'État, avec surtout un doute sur la finalité des réformes.
Alors, question suivante avec vous, Frédéric Dabi. Est-ce un développement durable, si je puis dire, de la présidence Macron? Est-ce que, au fond, c'est une fluctuation, comme on a pu le voir par le passé, ou c'est quelque chose qui a démarré et qui peut porter préjudice à ce président?
Alors, on sait très bien, sous la Ve République, hors période de cohabitation, qu'on ne ressort pas de l'enfer de l'impopularité, sauf Emmanuel Macron, justement, à la rentrée 2017, grâce à sa capacité réformatrice au moment de la loi travail. Il avait retrouvé une audience en déportant ses soutiens, en obtenant un soutien fort des sympathisants de droite. Là, c'est autrement plus compliqué. L'attentisme, voilà la bienveillance des Français fait part à une exigence de résultats, notamment sur le pouvoir d'achat, d'où peut-être les craintes et les attermoiements qu'on a vus sur le prélèvement à la source. Puis deux problèmes extrêmement sérieux pour un pouvoir exécutif. Le sentiment de justice sur les réformes. Les Français, systématiquement, et c'est la grille de lecture qui s'installe, nous disent dans nos enquêtes qualitatives, la hausse de la CSG pour les retraités, ce n'est pas juste. Les APL, ce n'est pas juste. Le remplacement de l'ISF, ce n'est pas juste. Et puis, le sentiment que les réformes ne bénéficient pas à l'ensemble des Français, mais uniquement aux premiers de cordée. Dans ce cadre-là, l'affaire Benalla a eu un impact, mais nettement plus marginal. C'est une mauvaise petite musique et ça a banalisé même.
Alors, il faut se rappeler que l'économiste Jean Pisani-Ferry, dans le JDD, il avait contribué au programme présidentiel d'En Marche. Et puis, Laurent Berger de la CFDT, dans le journal Le Monde, ont épinglé, si je puis dire, la méthode Macron. Est-ce qu'elle fait encore sens, Thomas Clay? Est-ce qu'il y a quelque chose a changé dans le logiciel présidentiel aujourd'hui?
Ce qui me surprend, c'est peut-être l'absence de réaction par rapport à cette descente dans les sondages. Encore qu'il ne faut pas seulement gouverner les yeux rivés sur les sondages, pardon, Frédéric Dabi. C'est-à-dire que là, il avait quand même une occasion d'impulser quelque chose de neuf avec un remaniement qui aurait été de plus grande ampleur et qui aurait pu peut-être essayer d'inverser la tendance. Et en choisissant un remaniement à minima avec un remplacement poste pour poste, je trouve qu'on a le sentiment qu'il n'a pas saisi cette occasion. Alors peut-être se dit-il que son gouvernement finalement n'est pas encore complètement usé, que certains ministres peuvent encore donner le change, mais on a quand même un certain nombre de ministres qui sont fragilisés. Il y a Mme Nyssen, il y a le ministre de l'Intérieur Collomb, il y a également évidemment Stéphane Travert, il y a Jacques Mézard, il y a même, on va voir ce qui va se passer avec Parcoursup, puisque c'est demain qu'on aura les résultats définitifs de Parcoursup, mais Frédéric Vidal pourrait être également fragilisé. Bon, on a quand même le sentiment que ce gouvernement, le président de la République et le Premier ministre estiment qu'il peut encore servir, l'user encore, et là, et je me retourne de nouveau vers le sondeur, est-ce que c'est un calcul pertinent? Parce qu'au contraire, on a une fuite dans les sondages qui pourrait continuer à descendre dans des abîmes que seul François Hollande a connus.
Que dites-vous de cette analyse, Marion Mourgue? Est-ce que nous sommes dans une situation qui ne peut qu'empirer et au fond, il aurait fallu peut-être quelque chose de plus large en termes de changement?
Oui, mais dans ces cas-là, ça voulait dire changer le Premier ministre? Et il n'y avait pas suffisamment...
Pourquoi ?
Parce que pour donner une dynamique à un remaniement, c'est généralement avec un changement de Premier ministre et donc peut-être de politique. Et on voit qu'il garde la carte plutôt pour après ou autour des européennes. Mais ce que ça traduit plutôt, c'est qu'il y a un doute qui s'installe chez les Français et que tout ce qui était mis au profit d'Emmanuel Macron, sa capacité à réformer, la capacité à changer les pratiques, la bienveillance... Tout ça, aujourd'hui, les Français se disent, mais c'est passé où en un an? Et c'est-à-dire que l'affaire Benalla, on sent que ça a quand même imprimé cet été avec l'idée que bah, finalement, il y a les amis qui sont récompensés. Et donc tout ça, quand même, on le sent, et on le voit dans le sondage, ça va laisser des traces.
Agathe Cagé, vous sentez ce mouvement brun irréversible quand l'on sait qu'une réforme d'amplitude large, met 2-3 ans pour produire ses effets?
Oui, parce que aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait face à des difficultés en termes de résultats. Vous avez une croissance française qui est de plus en plus faible et plus faible que ce qui était attendu, alors qu'on l'attendait quand même sur l'économie. On a un chômage qui ne baisse pas, en tout cas, qui ne baisse pas de manière structurelle. On a un décalage au report de la réforme institutionnelle qui faisait partie de ses grandes promesses. Et on reste sur un discours de « je vous ai demandé des efforts, notamment en matière fiscale, et je continue à vous faire des promesses sans qu'on ait totalement un horizon de concrétisation de ces promesses ». En plus, Emmanuel Macron commence à avoir des difficultés politiques fortes. C'est-à-dire qu'en un an et demi, une grosse année et demie, il a perdu un certain nombre de ministres de poids à ses côtés. Il a perdu François Bayrou, il a perdu Nicolas Hulot, il a perdu Laura Flessel, il a perdu Richard Ferrand également quand il était ministre. C'est-à-dire qu'on a quand même des changements de tête à la tête du gouvernement qui sont extrêmement rapides et extrêmement, extrêmement symboliques. Et enfin, Emmanuel Macron a quand même encore des difficultés à se positionner comme il le voudrait, comme le leader d'une Europe progressiste face à l'Europe des replis. Ça risque de se sentir et dans sa capacité à conduire la réforme des retraites, dans sa capacité à aller jusqu'au bout de la réforme de la SNCF et sans doute lors des prochaines échéances électorales.
Allez, 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Boris Allier.
Après Nicolas Hulot, Laura Flessel a elle aussi cédé sa place. La ministre des Sports démissionnaire a reçu celle qui lui succède, Roxana Maracineanu, l'ancienne nageuse championne du monde en 98. Salut celle qui restera la ministre qui a ramené les Jeux d'été en France. Les tests du prélèvement à la source n'ont révélé aucun dysfonctionnement. C'est ce qu'assure ce soir le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. L'application de la réforme a pourtant donné lieu à des déclarations contradictoires de l'exécutif. Elle sera bien mise en œuvre
au 1er janvier 2019. C'est ce que confirme ce soir le Premier ministre Édouard Philippe. Édouard Philippe qui a reçu aujourd'hui les derniers syndicats avant le lancement de la réforme de l'assurance chômage. La CFDT et l'UNSA étaient invités à Matignon aujourd'hui. De leur côté, la CGT et FO annoncent d'ores et déjà une journée de mobilisation le 9 octobre. Angela Merkel va se rendre à Chemnitz dans l'est de l'Allemagne, ville secouée par les manifestations anti-immigrés ces derniers jours. La chancelière est mise en cause pour avoir sous-estimé les difficultés d'intégration après l'ouverture des frontières. Et puis le début des quarts de finale de l'US Open de tennis. L'Argentin Juan Martín Del Potro affronte l'Américain John Isner en ce moment pour une place en demi. Chez les femmes, Anastasia Sevastova se qualifie pour les demi aux dépens de l'Américaine Sloane Stephens.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Boris Allier évoquait son cas à l'instant. Laura Flessel a tiré sa révérence pour des raisons personnelles. L'épéiste laisse sa place à une nageuse, Roxana Maracineanu, qui va devoir s'emparer notamment, entre autres, évidemment, du lourd dossier des JO de Paris. Écoutez ce qu'en a dit l'ancien ministre des Sports et ancien double champion olympique du sabre sur France Info, Jean-François Lamour.
Roxana aura vraiment fort à faire, et vite, parce que quand un pays organise les Jeux Olympiques, elle doit préparer ses équipes de France, elle doit aussi permettre le développement de la pratique sportive, quel que soit le territoire, parmi les plus éloignés. Donc c'est un gros travail, j'ai un peu le sentiment quand même là qu'on a perdu une petite année quand même. Voilà. Et malheureusement, en matière de sport comme ailleurs, le temps presse.
Thomas Clé, que dire? Est-ce que c'est un ministère important, celui des sports, ou est-ce qu'il est un petit peu anecdotique et c'est piloté ailleurs?
Moi, je trouve que c'est un ministère qui est maltraité. D'ailleurs, c'est pas faire injure à Laura Flessel de dire qu'elle a été absolument transparente pendant les 15 mois où elle a été ministre des Sports. Elle a connu, comme ministre des Sports, deux événements absolument historiques que n'importe quel ministre des Sports aurait aimé connaître, au moins un des deux. C'est-à-dire l'attribution des JO et puis la victoire à la Coupe du Bleu. Oui. On l'a jamais vue, Laura Flessel. Elle était où dans ces moments-là? C'est invraisemblable. Imaginez que...
Elle ne s'est pas emparée du sujet où elle aura été escamotée.
Elle a probablement été escamotée, mais imaginez ce qu'une Roselyne Bachelot aurait fait de ces deux sujets-là, puisqu'elle a été ministre des Sports elle aussi. Oui. Vous imaginez? Mais je voudrais qu'on dise un mot peut-être de la nouvelle ministre, Roxana Maracineanu. Parce que, on le dit aujourd'hui, elle va avoir une des responsabilités politiques, mais on ne dit pas à quel point c'était une sportive absolument exceptionnelle. Moi, je me souviens de sa course à Perth en 1998. Je me souviens d'ailleurs de l'avoir entendue sur cette antenne, au micro de France Info. Je ne sais plus si c'était Fabrice Avgral ou Matteo Maestrachi qui commentait, mais les 50 derniers mètres de son 200 mètres d'eau à Perth, il y a 20 ans, c'était exceptionnel. Et sans cette championne, il n'y aurait pas eu Laure Manaudou, il n'y aurait pas eu ensuite tout ce qui s'est passé avec la natation française. Elle était d'ailleurs pilotée à l'époque par un faiseur de rois, Lionel Horter. Et c'est une championne exceptionnelle. C'est bien d'ailleurs qu'on ait des champions qui soient ministres des sports. Et j'espère qu'elle va pouvoir s'imposer davantage que celle qu'elle remplace.
Alors si on entend le propos enflammé de Thomas Clé, Marion Mourgue, c'est une chance, donc c'est une perle rare dans ce gouvernement. Elle peut faire quelque chose.
Alors, je ne suis pas sûre d'être aussi calée que
Thomas
Clé.
C'est impossible.
Non, c'est surtout qu'il y a eu le départ d'une ministre qui était très populaire. Alors certes, elle n'incarnait pas politiquement, mais elle était très populaire auprès des Français. Est-ce que là, elle arrivera à exister un peu plus? Bon, elle a les conditions pour, mais...
Alors justement, Frédéric Dabi, Marion Mourgue a raison. Est-ce que on dit que ce sont les deux plus populaires qui quittent le gouvernement? C'est vrai ou c'est faux?
Je vais être un petit peu dur. Ce sont quand même des popularités de papier. C'est vrai que dans le baromètre IFOP fiduciaire pour match, on avait quasiment chaque mois en première position, avec une nette majorité de bonnes opinions, Nicolas Hulot, suivi de Laura Flessel. Dans d'autres enquêtes, quand on travaillait plus sur l'action, la satisfaction vis-à-vis de l'action, les Français avaient intériorisé pour Nicolas Hulot et également pour Laura Flessel, leur certaine impuissance à changer les choses. Ils étaient nettement moins bien placés que d'autres ministres. Il y a des sujets par rapport auquel on n'a pas entendu, ou peut-être pas assez, Laura Flessel que l'on voit dans nos enquêtes. C'est moins les événements, méta-sportifs, Coupe du Monde et JO, que la crise que connaissent les clubs amateurs, notamment du fait de la suppression des contrats aidés. C'est des sujets qu'elle aurait peut-être pu ériger sur la place publique.
Agathe Cagé, sur ce thème du ministre des Sports, un petit peu peut-être absent du débat public, vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il y a une carte à jouer désormais là-dessus?
Laura Flessel a clairement été invisibilisée. C'est-à-dire qu'elle aurait pu on aurait pu lui laisser plus de visibilité.
Invisibilisée.
Oui, pardon.
Non, mais c'est merveilleux.
Tout ce qu'on peut écrire, on la voit.
On aurait pu quand même lui laisser plus d'espace sur des événements populaires et médiatiques, type l'annonce de la candidature. Enfin, du fait qu'on ait les Jeux Olympiques et la victoire des Bleus, pour lui permettre de porter des messages politiques forts sur des dossiers difficiles, comme la situation du sport amateur en France. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, les images positives ont été captées par le président de la République. On a un ministère des Sports, et c'est ça la difficulté pour la nouvelle ministre, qui sera sans doute une ministre des compétences, mais sa difficulté majeure, c'est que le budget de son ministère a été réduit de manière forte, qu'on a quand même un périmètre des sports qui est un peu éclaté entre un délégué interministériel aux Jeux Olympiques, une ministre, des décisions qui ne sont pas toujours prises au niveau du ministère des Sports, un manque de moyens, un manque de vision sur le sport amateur et sur la situation du sport en France, une séparation du sport et de la vie associative. Bref, les dossiers sont lourds. On espère que la nouvelle ministre pourra maintenir son rang de championne du monde pour aller aussi loin qu'elle peut pour faire progresser le sport en France.
Et ce sera le mot de la fin avec vous. Vous, Agathe Cagé, la une du Figaro, demain Marion Mourgue, j'essaie d'imaginer.
Eh bien, on revient sur la réforme du prélèvement à la source.
C'est la une, hein, plus
exactement,
que le remaniement. Allez, merci à vous Marion Mourgue, merci Agathe Cagé, merci à Frédéric Dabi et merci et peut-être bravo même Thomas Clé, vous êtes embauché comme commentateur sportif sur les chaînes de France Info, radio et télé. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir, avec bonheur demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonsoir.